Bonsoir, online, offline, quelle différence désormais? Vous connaissez ce double mouvement qu'on vous raconte régulièrement sur BFM Business. D'un côté, on a des enseignes hein, qui font des magasins de plus en plus connectés, qui s'allient avec des acteurs du net. Quand en sens contraire, on a des pure players qui ouvrent des magasins en dur. Voilà, alors comment est-ce que vous allez faire vos courses justement? Est-ce qu'un jour, quelque part, digital et commerce physique ne feront plus qu'un? E-commerce et digital, est-ce le mariage obligé? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, e-commerce et boutique, est-ce le mariage obligé? On va en parler ce soir avec les plus grands acteurs du secteur. Tenez, Éric Courteil, co-président de La Redoute, oui, l'un des co-auteurs du retour en grâce, du retour plein de succès de La Redoute, il nous expliquera. Avec nous également Charlotte Journeau-Bord, fondatrice de Wishibam. C'est un site marchand qui eh bien propose le mariage entre le e-commerce et le conseil intelligent. François Monboise est avec nous, le président de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, peut-être aussi de la Fédération européenne du secteur. Et puis Isabelle Bordry, fondatrice de Retency, qui justement eh bien, a créé un logiciel pour aider les magasins physiques, pour connaître un peu le parcours client. Et puis dans quelques minutes, on attend également Laurent Milchior, le co-gérant d'Etam. Alors, c'est vrai qu'on voit que les deux se mélangent, hein, les boutiques, le digital. Regardons ce qui s'est passé donc dans l'actualité, soit très récente, soit de ces dernières semaines. On voit Gucci, par exemple, qui fait encore bondir les ventes de Kering, profitant de la récente ouverture d'un site de e-commerce en Chine. Nespresso, c'est aujourd'hui actuellement le tiers des ventes en magasin et le reste se fait sur Internet. Ils veulent doubler le nombre de boutiques en France. Auchan, qui expliquait récemment que leur priorité, c'est le multiformat digital, physique, digital, hein. Walmart qui s'associe à Google, Amazon qui rachète Whole Foods, LDLC qui vend en ligne des produits tech, qui veut ouvrir 100 boutiques physiques. Tiens, pour planter le décor, tiens Isabelle Bordry, justement, est-ce que c'est le vent de l'histoire? Les frontières, elles s'estompent donc entre digital et magasin physique?
Oui, absolument. Le grand enjeu et le grand challenge aujourd'hui, c'est de voir comment on peut créer une connivence entre le online et le offline. Et c'est ce vers quoi le client, le consommateur, va avoir une expérience globale. Donc le magasin n'est pas mort, puisqu'effectivement, il y a une dizaine d'années, on se disait il y aura une révolution, on achètera tout sur Internet. Non, on n'achète pas tout sur Internet. Mais les usages et les grandes règles qui faisaient le commerce il y a 10 ans, 15 ans, qui étaient basées sur une bonne adresse, le bon produit, le bon prix, sont en train d'être un peu bousculés, une sorte de révolution Big Bang, puisque à ce bon emplacement, bonne adresse, bon prix, bon marketing, il faut rajouter service,
eh ben voilà,
qui est un élément absolument déterminant. Service et donc data, pour pouvoir effectivement délivrer un service client aussi bon que celui qu'on a aujourd'hui sur Internet.
Ouais, François Monboise, les frontières s'estompent, chacun va chercher des recettes chez l'autre, hein, dans ce milieu entre le digital et le physique. Hein.
Oui, on le voit de façon, on le voit avec la, on publie chaque trimestre à la FEVAD les top 15 des sites les plus visités. Il y a 5-6 ans, il y avait énormément de pure players. Maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Les grandes chaînes de magasins sont là. Aux États-Unis, il y a un pure player, Amazon, et il y a 14 chaînes de magasins. Et en France, je dirais pas que c'est la tendance, mais presque. C'est-à-dire qu'il reste comme pure player, ben, Amazon, mais vous l'avez dit, ils ont racheté Whole Foods. Puis les sites comme Booking, qui n'ont pas besoin du physique, puisque c'est un portail de physique. Rakuten, pareil. Alibaba, il n'est pas dans le top 15, mais ces sites ont des magasins physiques. Mais sinon, les autres, effectivement, proposent les deux.
Oui, Isabelle. Pardon, j'ai cru que vous faisiez signe.
Non, mais effectivement, comment créer ce lien entre le physique et le magasin est un élément clé et c'est ces enseignes-là qui gagneront à l'avenir.
Alors, je le disais, on est avec Éric Courteil, co-président de la Redoute. C'est vraiment l'histoire d'une recovery réussie, hein, une vieille histoire de 180 ans qui aurait pu se terminer il y a 3 ans, hein, de graves difficultés. Et puis, bah, vous êtes arrivé donc avec Madame Bala également. L'équilibre, 3 ans après, donc on est en 2017, les bénéfices, les premiers bénéfices qui vont arriver donc l'an prochain en 2018, hein, ça va s'accélérer aussi avec le rachat donc par les Galeries Lafayette, c'était l'annonce donc à la fin de cet été, justement le mariage de deux acteurs historiques, deux acteurs centenaires, online, offline, quelle différence désormais?
Ouais, alors c'est effectivement le mariage de deux marques déjà nationales avec un essor international, puisque galerie comme nous, on est présent international, et c'est 300 ans d'histoire quand on réunit les deux
enseignes. Ouais.
Donc c'est plutôt drôle. En tous les cas, il y a un pied de nez autour des marques, autour de l'histoire et autour du passé. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est le futur. Et je crois que le point commun entre les galeries, quand on a discuté avec la famille Houzé et nous, Nathalie et moi-même, c'est effectivement le commerce. Et on le disait tout à l'heure, en fait, partir du client et se poser la question de ce que veulent les clients, c'est aussi à un moment donné se poser la question des canaux. Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, entre le physique et le digital, il y a un pont qu'il va falloir créer, parce que tout n'est pas créé encore entre ces deux mondes-là. Et c'est très excitant pour nos deux enseignes, oui.
Oui, tiens, prenons l'exemple aussi. Hein. Tiens, Wishibam, Charlotte Journeau Bord. Qu'est-ce que c'est, Wishibam?
Alors, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti du commerce physique et on s'est inspiré du commerce de proximité. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, en ligne, ce qui faisait qu'on achetait en ligne, c'est parce que c'était pratique et souvent parce que c'était moins cher. En tous les cas, c'était l'idée qu'on en avait. Mais si on n'avait pas d'idée exacte sur ce qu'on voulait acheter, si on avait une question, si on a envie d'avoir une expérience d'achat un peu différente, et ben en fait, on se rendait en magasin. Et donc nous, ce qu'on a développé, c'est une technologie qui permet de digitaliser le vendeur pour recréer un peu ce lien perdu entre client et commerçant. Et donc, pour accompagner le client, comme le ferait un vendeur en magasin, sauf qu'on le fait sur le site marchand. Donc, on le fait sur Wishibam. Et là, on commence à travailler avec des gros acteurs comme Vente Privée pour implémenter notre solution chez eux.
C'est du e-commerce humain, pardon, à tous ceux
Exactement.
Qui font du e-commerce, quelque part, qui vont dire, mais non, nous aussi, il y a de l'homme, il y a des hommes et des femmes derrière. C'est un peu ça que vous voulez, c'est du e-commerce, mais avec de l'humain, de l'émotion,
Exactement.
De la passion,
en fait, moi, ce que je pense, c'est que c'est l'émotion qui pousse à l'achat et que c'est l'expérience qui fait qu'on vend et qui fait que les clients reviennent. Et donc, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les nouvelles technologies pour développer une solution qui permet aux humains d'intervenir que là où ils créent de la valeur. Donc, en gros, il y a un algorithme qui propose une réponse à des experts et ces experts valident et passent le temps qu'ils auraient passé avant à trouver cette sélection à discuter avec le client. Et on se rend compte que ça marche super bien puisqu'on a un taux de conversion qui est 5 fois supérieur au commerce en ligne et un taux de réachat très élevé.
On va donner la parole à Laurent Miquior hein, qui nous a rejoint, c'est le co-gérant d'Etam. C'est une passerelle intelligente, là vous parliez de pont, de passerelle à inventer. Éric Courtais, Isabelle Bordry, quand vous écoutez ce que vous raconte Charlotte Journeau.
Ce que j'entends surtout, c'est que nous on vend de la mode et on vend de la maison. Donc la mode et la maison sont deux univers où en fait la désirabilité est un facteur très important et en l'occurrence tout ce qui peut rendre encore plus désirable l'expérience d'achat sur la toile est quelque chose qui forcément nous intéresse. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit bien quand on achète, par exemple, on a la marque AMPM, on a la marque Redoute Intérieur, on a les marques Redoute Collection, l'habillement. Et en l'occurrence, on se rend bien compte qu'à un moment donné, l'expérience d'achat n'est pas la même en termes d'émotion, que ça soit sur Internet ou que ça soit en magasin. Donc forcément, des outils comme celui-là peuvent être intéressants pour renforcer la désirabilité.
Isabelle Bordry.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on recrée le rôle du vendeur.
Exactement.
Et donc, les sites e-commerce recréent le rôle du vendeur. Et comment on fait pour que le vendeur dans le magasin soit aussi accueillant et délivre autant de services que lorsqu'on arrive sur la première page d'Amazon? Donc, c'est échange de best practice, mais effectivement, le rôle du vendeur, du service qui accompagne l'achat devient de plus en plus clé.
Alors celui qui a de très nombreuses boutiques, des milliers de boutiques dans le monde, c'est Laurent Miquior, donc à la tête.
La question revient, qu'est-ce que je fais?
3700 boutiques, y compris la Chine, hein, vous avez dans le monde, et la Chine c'est une grosse partie du chiffre d'affaires, je crois que c'est le tiers. Autre vieille maison française, on parlait de la Redoute, on parlait des Galeries Lafayette, vous aussi, donc groupe familial, 1,3 milliard de chiffre d'affaires, presque 14 000 salariés. C'est vous qui aviez lancé le e-commerce dans la famille, donc chez Etam, il y a maintenant 15 ans, hein, justement. Ouais, aujourd'hui, le web, il pèse autant que le commerce en dur en France, dans vos magasins.
Non, pas du tout. Non, le web, malheureusement,
vraiment,
d'ailleurs, le web pèse pas 50% de notre chiffre d'affaires, le web pèse un peu moins de 10% du chiffre d'affaires.
Ah bon, alors, pardon, c'est une de vos collaboratrices qui m'a dit ça, mais pardon, voilà.
Et on a un réseau qui est assez dense, donc on voit que sur des pays en développement, sur des marques en développement, on a tout de suite le web qui pèse beaucoup plus aujourd'hui. Et je prends un exemple, on parle beaucoup de click and mortar, et la réalité, c'est qu'on le voit en Espagne, on a une nouvelle marque qui s'appelle Undies, enfin une marque qui a 10 ans et qui a démarré en Espagne il y a un an à peine. Et à partir du moment où on a recruté un community manager, donc notre site internet qui faisait quelques ventes et passer première boutique, puisqu'on avait que 5 magasins en Espagne. Donc première boutique, je vous laisse faire le calcul, c'est plus de 20% du chiffre d'affaires. Mais surtout, les 5 magasins ont progressé de 30% en chiffre d'affaires immédiatement quand immédiatement, c'est 15 jours après, on voit sur les courbes très nettement un infléchissement. Donc la relation aujourd'hui entre ce que le catalogue peut apporter, les réseaux sociaux et donc toute la partie digitale dans la sphère communication, elle est extrêmement importante sur la performance des magasins. Et nous, on le voit, on a des zones de chalandise où on voit qu'on est très performant sur le web, relativement sous-pénétré en magasin, donc on peut ouvrir plus de magasins et vice-versa. Donc aujourd'hui, il y a un lien qui se fait entre les deux, au point qu'on est en train de travailler aujourd'hui, on a nommé ça en interne Adopte un Mag. C'est comment est-ce qu'on peut réallouer ce chiffre d'affaires finalement au magasin et dire au magasin, vous n'êtes pas responsable uniquement du chiffre d'affaires qui est fait entre vos murs, même si c'est une part importante de votre incentive parce qu'on a une part de coûts fixes, loyer, etc. Mais c'est de dire finalement sur une zone de chalandise de X kilomètres qui représente X% de votre chiffre d'affaires, vous êtes responsable de tous ces clients autour de votre zone de chalandise. C'est-à-dire que du coup, à un moment donné, on se retrouve avec la somme des chiffres d'affaires des magasins virtuel n'est plus également à la somme de l'entreprise, puisqu'il y a plein de magasins qui peuvent se retrouver sur des zones de chalandise similaires. Mais sinon, c'est de dire au magasin, on se bagarre pas contre le web, c'est vos consommateurs finalement, c'est où ils consomment. Le luxe l'a compris depuis longtemps, puisque finalement le luxe regarde moins le chiffre d'affaires qu'on fait en France ou en Chine ou au Japon, mais c'est plutôt la consommation des Japonais dans le monde, des Chinois dans le monde, des Brésiliens dans le monde. Bah, nous, c'est un petit peu la même chose finalement. C'est comment ce consommateur unique peut consommer sur tous les canaux. D'ailleurs, on travaille un peu avec Retain.
Ah bon, c'est le hasard.
Pendant un certain temps pour effectivement de manière non intrusive suivre le consommateur pour mieux le servir. Et je pense que c'est vraiment c'est combien de data on récupère du consommateur et quel service on lui donne. Et si on donne plus de services que la data qu'on récupère, alors le consommateur il est plutôt content de nous donner la data. Si on exploite la data sans rien lui redonner, alors finalement il y a une espèce d'insatisfaction qui s'installe.
Oui, c'est ça. Voilà, l'enjeu est bien anticipé finalement les attentes des consommateurs ou des consommatrices.
Quand vous êtes sur Internet, c'est un milieu assez fascinant parce que quand vous arrivez sur la première page d'un site d'e-commerce ou de tout autre site d'ailleurs, le site a l'intégralité de votre navigation. Donc il connaît en temps réel et il peut optimiser en temps réel son merchandising, il peut personnaliser sa demande, il peut pousser de la recommandation, etc. Et donc on aide effectivement les enseignes à avoir cette démarche-là, c'est-à-dire comprendre exactement ce qui se passe entre la porte d'entrée et la caisse pour pouvoir à l'intérieur du magasin apporter des optimisations et du service supplémentaire et faire le lien avec le online.
C'est intéressant ce que disait Laurent, parce que moi je me rappelle dans la grande maison auquel j'appartenais auparavant, c'est-à-dire le groupe Kering, on avait des débats sans fin au sein des enseignes de distribution à l'époque, hein, il y avait la Fnac, il y avait Conforama, il y avait la Redoute, etc., où on avait peur que Internet vienne cannibaliser le magasin. On a eu des débats, mais sans fin, avec des prises vraiment des prises de gueule, etc., sur le sujet. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une vraie valeur ajoutée à faire coexister les deux. Et l'évolution, en fait, du comportement du consommateur et finalement la prise en compte par les enseignes de ce que veulent réellement nos clients a fait qu'effectivement, il y a eu un move extrêmement massif aujourd'hui. Et on le voit autour de la data, autour de la géolocalisation, autour du client, in fine. Et ben, on arrive à faire concilier les deux avec une vertu où 1 plus 1 égale 3. Et c'est bien ça l'enjeu de demain.
Oui, tout juste, François Monboise.
Et il y a avant les sites proposaient en général du click and collect, c'est-à-dire je paye en ligne et je vais chercher le produit en magasin. L'avantage pour le consommateur, c'est qu'il choisit quand il y va, et puis en général, la livraison est gratuite. Et maintenant, ce que les sites développent souvent, c'est du click and reserve, c'est-à-dire que vous ne payez pas, et vous dites simplement tel article m'intéresse et je vais aller le voir, Yves Vaugirard dans la boutique. Et si l'informatique est bien faite, mais ça paraît simple, mais c'est très compliqué, le magasin va savoir que M. Fabrice Lundy va venir pour voir tel produit. Et donc, on pourra déjà réfléchir à quoi lui vendre en plus. Ouais. Et ça se développe énormément.
Ouais, c'est vrai que
Et donc, la boutique devient un atout, parce que ça permet que le consommateur aille voir le produit tout de suite qu'il a déjà choisi, présélectionné sur le site internet.
Et en même temps, on voit chez vous, notamment Laurent Milchior, 40% des achats magasins sont précédés de 5 visites sur le site, hein, dans les 2 semaines qui précèdent. C'est ce qu'on appelle l'effet repos research. Online, purchase, offline, c'est ça?
On pourrait le faire dans le sens.
C'est pour ça, ça marche dans tous les sens.
Le haut, le online et l'offline, peut aller dans un sens ou dans l'autre.
C'est ce que je demandais, il y a plus de différence entre le online et le offline, oui ou non?
Il y a plus de différence. Si, il y a une différence, c'est pas le même plaisir d'acheter.
Mais il ne se cannibalise plus.
La réalité, c'est que le e-commerce, quand on regarde, alors je regardais le marché juste avant de venir. Est-ce que c'est 10%, 16% le marché de l'habillement selon la Fevad ou d'autres, ou Kantar, on n'a pas exactement les mêmes chiffres. Mais on s'aperçoit que finalement, si on prend la VPC, le marché de la VPC il y a 15 ans, ça représentait déjà, je suppose, 6, 7% du marché français. Donc finalement, dans l'habillement, le e-commerce a pas fait progresser significativement la part de la vente à distance. Donc le magasin est avant tout un lieu d'expérience. Et encore plus, et je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des zones de commerce beaucoup plus locales où on va chercher un produit qu'on a besoin de consommer tout de suite, que ce soit d'alimentaire, etc. Ou parfois du prêt-à-porter ou de la lingerie, mais moi je pense personne un peu moins. Et des lieux où on va avoir un choix beaucoup plus large, donc des rues commerçantes plus riches et les plus gros centres commerciaux ou des zones périurbaines. Donc il y aura une espèce de concentration et surtout des lieux d'expérience. Il y a une photo de notre magasin derrière. Aujourd'hui, on a investi, si notre groupe, enfin nos marques ont progressé, ce qu'on appelle à magasin constant significativement ces 5 dernières années sur un marché à peu près stable ou légèrement négatif, c'est parce qu'on a investi énormément dans nos magasins, dans l'environnement magasin, dans le service qu'on peut offrir. Et beaucoup de le retail a souffert, je pense, par un manque d'investissement aussi, parce que ça a été la course à l'ouverture des mètres carrés. Et à un moment donné, trop de mètres carrés, quelle que soit sa marque, la marque, elle a un potentiel donné sur un marché. Et quand on dépasse ce potentiel, on se cannibalise. Et au-delà d'un certain point, on se cannibalise trop. Et en plus, après, on n'a plus les moyens de rénover son magasin. Et donc on vieillit. Et je pense que le retail souffre beaucoup physique. D'abord parce que on n'a pas fait notre travail. On a été trop loin dans notre pénétration, parce que probablement on n'a pas su se développer à l'international pour un certain nombre de Français, plutôt que l'invasion du e-commerce. Après, ça change les comportements encore plus des millénials, c'est certain.
Et c'est vrai, la configuration des points de vente, Isabelle Bordry, François Monboise, quand on voit en ce moment toutes les interrogations autour de la distribution en France, la grosse distribution, Auchan par exemple, réfléchit et se positionne clairement sur ce qu'on appelle le phygital, c'est-à-dire le physique et le digital, par exemple dans leur petit magasin Maille Auchan. 300 mètres carrés, oui, c'est assez modeste, 5500 références de produits donc du quotidien, un espace restauration, et il y a une borne de commande pour aller sur Auchan.fr, AuchanDirect.fr, en livraison en vélo à domicile, click and collect avec livraison. Donc finalement, les magasins se redimensionnent et apportent donc des services avec des passerelles sur le web.
En fait, c'est le magasin augmenté. On optimise le nombre de mètres carrés parce qu'on joue la proximité, puisqu'on veut être de plus en plus local et proche de son client pour être dans la spontanéité, l'expérience nouvelle. On n'y va pas par obligation, on y va parce qu'on en a envie et de plus en plus. Et donc, lorsqu'on arrive effectivement dans un univers qui est un univers plaisant, on a besoin d'optimiser les mètres carrés. Et donc, pour optimiser les mètres carrés et augmenter le nombre de catalogues, effectivement, un accès facilité pour les vendeurs est effectivement intéressant. Donc, cette transformation des usages bouscule la taille et les surfaces de magasins.
Tout le monde prend la parole. Il y a François Monbois, Charlotte Journeau, Éric Courteil. Allez-y, dans l'ordre.
J'irai même plus loin. J'irai que c'est obligatoire pour les magasins d'être agréable. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas le choix. Exactement. Quand vous voulez faire des courses, il fallait aller en magasin. Donc, même si le parking était compliqué, il fallait marcher, on était obligé. Maintenant, un magasin, on ne peut plus accéder parce que voie sur berge, parce que quoi que ce soit.
Ah bon. On y va plus.
Il y a ça à Paris,
franchement, les gens, c'est pour ça que les commerçants qui sont au Forum des Halles sont très inquiets, parce que les gens n'y vont plus.
Bah, bien sûr.
Donc, le challenge pour les magasins, c'est qu'ils sont obligés d'être encore plus agréables, comme vous l'avez dit, d'offrir des choses pour que ce soit un plaisir d'aller en magasin, sinon les gens n'iront pas.
Charlotte Journeau-Bord et Éric Courteil, allez-y.
Ce qui est assez marrant, justement, c'est que, enfin, l'impression que j'en ai, moi, c'est que aujourd'hui, les magasins intègrent les avantages du commerce en ligne dans leurs magasins quand on regarde. Les magasins donc augmentés avec beaucoup plus de références produits, ou même les essais de magasins comme Amazon Go où tout est seamless, où il y a plus de queue, où il y a plus rien. Bon, ça, je dis pas que ça marche, mais voilà, en fait, on se rend compte que dans les magasins, on essaye de prendre ce qu'il y a de bien dans le commerce en ligne. Et donc, du coup, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de prendre ce qu'il y a de bien dans le commerce physique. Et effectivement, dans les évolutions des modes de consommation sur les centres commerciaux, avant, les centres commerciaux de périphérie étaient horribles, c'était du préfabriqué et limite on se disait que comme c'était du préfabriqué, ça donnait l'idée que c'était moins cher et donc du coup les gens y allaient. Et en fait, tous ces centres commerciaux qui étaient comme ça ont disparu et maintenant les magasins et les centres commerciaux sont des vrais lieux de vie où tout est pensé autour du client pour que ils aient une belle expérience d'achat où le client se sente valorisé. Il y a des aires de jeu, il y a des pôles de restauration. Aujourd'hui, ça nous paraît normal qu'il y ait des pôles de restauration dans les centres commerciaux, mais enfin, ça fait pas si longtemps. Ça fait vraiment pas si longtemps, quoi.
Et vous parlez d'expérience, parce que vous êtes aussi dedans. Vous êtes la fille de Philippe Journeau, le patron de la compagnie de Phalsbourg, donc qui possède un certain nombre de beaux centres commerciaux. Non, mais c'est bien, voilà, vous avez une expérience du commerce. Vous avez connu l'avant et l'après, et l'après, c'est vous qui l'avez entre les mains, notamment avec Mouchi Bam. Éric Courteil, la redoute.
La redoute, je sais pas, mais il y a une chose que je voulais rajouter aussi, c'est que le e-commerce a apporté aussi dans son évolution l'achat dans un contexte de mobilité. C'est-à-dire que tout ce qui va concerner le smartphone, le téléphone, etc., avec une expérience physique, là, il y a un vrai sujet à traiter, il y a un vrai sujet en termes d'expérience client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, aujourd'hui, on voit bien, nous, avec nos magasins MPM à Paris, les clientes arrivent dans le magasin, elles ont forcément qu'une...
Alors attendez, racontez, parce que c'est vrai que ça fait, c'est l'une des marques du groupe La Redoute, AMPM, donc c'est un site au départ de décoration, d'ameublement. Hein,
un catalogue aussi au départ,
un catalogue, bien sûr, mais enfin voilà, un catalogue ensuite qu'on commande par, par correspondance et bon, par e-commerce maintenant. Et vous avez décidé d'ouvrir deux magasins à Paris à Nantes, et puis maintenant, profitant du mariage avec les Galeries Lafayette.
Oui, alors surtout que c'est notre expérience, on l'a fait modestement au début, on a ouvert deux magasins à Paris, un rue Bonaparte et un avenue Victor Hugo, et on s'est rendu compte que ça cartonnait. Et en l'occurrence, on a rencontré une audience, on a rencontré un public, et on voit bien qu'aujourd'hui, on n'a forcément pas toute l'offre à MPM dans ces magasins-là, donc c'est ce qu'on appelle des showrooms connectés, et tout ce qui facilite effectivement l'achat dans un contexte de mobilité à travers l'application où là on bénéficie de l'ensemble de l'offre, mais en ayant quand même dans le lieu physique une inspiration liée aux produits présents, etc., ça renforce aussi le comportement d'achat.
Mais qu'est-ce qu'on trouve dans ces magasins? Parce que en effet, comme vous le dites, on peut pas tout mettre, c'est l'ambiance.
On trouve les ambiances. Typiquement, allez visiter nos magasins rue Bonaparte ou avenue Victor Hugo, vous allez voir, c'est des lieux de vie. Il y a des pièces, il y a effectivement la chambre, il y a le salon, il y a la cuisine, etc., avec un environnement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui différencie La Redoute, par exemple, par rapport à Amazon ou d'autres, c'est que nous, on a fait le choix de garder nos bureaux de style. Nous, tout ce que l'on fait, en fait, c'est fait, créé par des équipes de style en interne. Et en l'occurrence, on n'est pas uniquement sur du convenient, on ne vient pas sur La Redoute pour acheter une paire de Nike, acheter un meuble bas, etc. On vient acheter aussi une histoire que l'on raconte à travers ces produits.
Mais à MPM, quand on est rue Bonaparte, ou dans le 16e, c'est du foncier, évidemment, qui est très très cher. On ne peut pas faire un... Comme chez Ikea, par exemple, où on se balade dans la chambre.
Non, pas comme Ikea, non.
Non, mais j'entends bien. Ou un Conforama, peu importe.
J'aime beaucoup Conforama, voilà, mais c'est pas la même chose.
Non, mais voilà. Et donc, nécessairement, l'expérience, il faut vraiment que le client se projette justement.
Oui, mais c'est à nous aussi de faire l'effort. Ouais. C'est à nous, effectivement, on le disait, aujourd'hui, quand un client rentre dans un magasin, il a aussi une application de n'importe quel autre concurrent. Et en l'occurrence, il est capable de benchmarker à l'instant T effectivement ce qui va se passer dans le magasin et de se dire finalement je vais sortir pour aller ailleurs ou je vais l'acheter en ligne sur un autre site. Ça veut dire que ça renforce l'exigence et qu'aujourd'hui je pense que le lien entre le e-commerce et le magasin passe beaucoup aussi par les ambiances et le contenu digital que l'on va être capable d'éditorialiser. Et ça, c'est fondamental.
Isabelle Bordry, François Montpassier, puis on revient vers vous, Laurent Milcœur, la tête d'Etam.
Et ce qui effectivement change, c'est que le client peut basculer d'une enseigne à l'autre de manière... très simple. Il n'y a pas 5 km à faire en plus. Je ne vais pas en centre-ville versus le périurbain. C'est-à-dire que je choisis en permanence l'enseigne que je souhaite, soit sur le online, soit directement dans le magasin. Donc, il n'y a pas de switching cost. Je peux immédiatement basculer sur une enseigne ou sur une autre et c'est un élément essentiel. Donc, après, en termes d'organisation, et c'est ce que Laurent Melchior expliquait, ce qui a été... compliqué jusqu'à présent pour les organisations, c'est qu'il y avait le site internet qui était en fait une boutique supplémentaire. Donc il y avait le site qui était une boutique supplémentaire, qui était traitée de manière un peu spécifique, et puis à côté, il y avait le réseau de boutiques. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les deux doivent être complètement intégrés dans l'expérience client. Et donc le fait effectivement d'incentiver la boutique sur un chiffre d'affaires qui peut être généré online est un élément clé pour l'évolution de l'expérience client.
François.
Oui, une des choses qu'Internet a habitué les gens, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais c'est un état de fait, c'est l'impatience. Les gens maintenant ne supportent plus qu'un magasin dise, écoutez, il n'y a pas votre taille, revenez dans 4 jours.
Les gens reviennent. Ils ne supportent plus de faire la queue non plus dans les magasins.
Exactement. Ils ne supportent plus de faire la queue aux caisses. Moi, j'ai travaillé longtemps à la FNAC, à chaque fois, on faisait des enquêtes tous les ans. Le problème numéro un, la queue en caisse. Systématiquement.
En fait, il y a quatre.
Les gens sont impatients.
Il y a quatre irritants dans le magasin. En fait, il y a quatre irritants. Il y a la rupture de stock. Finalement, aujourd'hui, on peut plus se permettre à quelqu'un qui est en mobilité, en temps caché, finalement, de regarder sur son smartphone un site en disant, ah, tiens, le produit est sympa, il y a la taille. Ça tombe bien, je le veux dans 10 minutes, donc je vais passer devant un magasin. Et bien, non, madame, j'ai plus le produit. Donc, nous, depuis 4 ans, on a des iPads dans nos magasins. On propose l'intégralité du catalogue dans tous nos magasins. Et donc, on livre sous 48 heures en magasin ou chez la cliente le produit manquant à partir du moment où il est disponible quelque part dans le réseau.
Deuxième irritant.
Le fait de se déplacer dans le magasin, on a parlé de transport, etc. Ça, on n'y peut rien. Maintenant, il y a des centres commerciaux qui proposent des expériences plus confortables, etc., qui encouragent à y aller. Et c'est vrai que quand on prend les centres périurbains, compagnie Falsbourg, avec lesquels on travaille, donc Philippe Journeau a fait un changement radical, un game changer en termes d'environnement magasin pour la périphérie par rapport aux coques qu'on a connu à un certain moment et qui était un peu désorganisé où on se garait. Enfin, il y avait un magasin de lingerie à côté d'un Midas, à côté d'un McDo. Non, c'était la réalité. hein. Ensuite, il y a la queue en caisse et la queue en cabine. Sont les deux irritants. Ouais. Aujourd'hui, je suis en ligne, je suis sur un acteur leader du retail mondial américain. Je veux mon truc, je fais même pas une photo. Je positionne mon smartphone devant un emballage de quoi que ce soit, ça me le trouve. Je mets mon empreinte digitale, c'est à la maison demain. Ce soir, avec un peu de chance. Donc, d'aller faire la queue en magasin, etc., c'est un problème. Donc, il faut qu'on trouve absolument des solutions pour réduire la queue en caisse, pour réduire l'attente en cabine, sachant que les mètres carrés sont chers, donc on peut pas avoir 200 000 cabines non plus. Donc nous,
comment on fait pour pas attendre à l'entrée d'une cabine?
Nous, on est en train de travailler sur un système qui sera en pilote dans quelques magasins. Je suis cliente, je suis reconnue dans le système, donc je suis une cliente quelque part fidèle, parce que j'ai déjà consommé ou j'ai déjà dans la base de données. Donc je propose ce service de dire, vous pouvez prendre jusqu'à un certain nombre de pièces, disons 10 pièces. Je prends votre empreinte de carte bancaire, mais je ne la débite pas, d'accord, donc je suis sur un mode de vente à distance. Je rentre chez moi. Je vous ai déjà préparé un sachet avec votre adresse retour pré-imprimée, et j'essaye ce que je veux. J'ai un certain temps, une semaine, pour essayer les produits. Et la différence que je remets dans le paquet, donc que je ne garde pas et que je dépose dans un point relais à côté de chez moi, automatiquement, quand on va le recevoir, on va débiter la différence et donc laisser se faire à la maison. Donc un meilleur confort d'achat, un meilleur taux de transformation, probablement un panier moyen qui va être plus gros, parce qu'une fois qu'on a des produits à 20 euros à la maison et qu'on a le choix de les essayer, bon, on va en garder un petit peu plus. Et on offre un vrai service de satisfaction. Tous nos magasins rénovés ont le système qu'on appelle ISMP d'Ingénico, qui est le même système que vous trouvez dans une boutique à la pomme, qui permet de payer sur la surface de vente sans avoir à faire la queue en caisse. On a intégré notre programme de CRM, etc., sur cet outil, ça on l'a depuis 2 ans. Et donc ça réduit les irritants. Alors, c'est pas parfait, mais je pense que ça c'est absolument essentiel, ouais, de fluidifier le passage en magasin.
Bon, allez, vous savez quoi, on va se retrouver dans un instant, c'est génial. Voilà comment est-ce qu'on va faire nos courses dans les prochaines semaines, bien sûr. Est-ce e-commerce, boutique, est-ce que c'est un mariage obligé, est-ce que les frontières s'estompent? On continue avec les décodeurs de l'écho. À tout de suite sur BFM Business, à la télé et à la radio, bien sûr.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ouais, le commerce physique, le commerce digital ne feront-ils plus qu'un à terme, justement, les frontières qui s'estompent de plus en plus, l'un et l'autre qui s'inspirent des recettes du premier. On va continuer dans un instant, évidemment, avec nos décodeurs de l'écho. Juste à propos, justement, eh bien, des nouvelles façons de faire ses courses. Hein. C'est Amazon qui, aux États-Unis, annonçait ce matin le lancement d'une key. Clé, hein, bien sûr, en anglais, service destiné à ses clients premium pour permettre de livrer les colis dans leur logement lorsque les clients ne sont pas là, en quelque sorte. Voilà, Amazon rentre chez vous, hein, vous êtes au travail, hein, vous avez payé un abonnement de $250 annuels. Vous êtes prévenu donc sur votre téléphone mobile qu'il y a le livreur qui arrive, donc vous pouvez le suivre eh bien avec une caméra qui est installée chez vous. Il dépose les affaires dans le frigo, il referme le frigo, il referme la maison et le tour est joué, comme on dit. Oui, Isabelle Bordry, Walmart avait lancé le mouvement il y a quelques semaines, quelques mois. Est-ce qu'après la guerre des assistants personnels, on va assister à la guerre des serrures, en quelque sorte?
Peut-être, mais déjà la guerre des assistants personnels est assez révolutionnaire, parce que c'est une totale nouvelle interface. C'est-à-dire vous êtes chez vous, vous parlez, vous ne choisissez plus, vous lisez plus, vous discutez avec votre assistant personnel et une heure après, vous avez le produit qui vient chez vous. Alors effectivement, dans l'e-commerce, pour cette livraison et cette qualité de service, il y a un irritant, pour reprendre les termes de Laurent Melchior, c'est le fait qu'il faut qu'on soit là pour récupérer le produit. Et donc c'est un système, alors c'est très à l'américaine, je ne sais pas si dans les marchés latins ça sera accepté de manière aussi simple. On ouvre plus facilement aux États-Unis le frigidaire lorsqu'on est chez quelqu'un que dans un pays européen. Mais effectivement, cette capacité de pouvoir rentrer chez les gens et de livrer les courses que vous venez de faire, alors même que l'appartement est vide, est un élément absolument déterminant de service. Et donc je pense que tout comme Alexa aujourd'hui est déjà dans 20 millions de foyers.
Les assistants personnels.
Et les anticipations, c'est que dans 3 ans, 75% des foyers américains soient équipés soit de Google Home, soit d'Alexa, soit d'un autre.
Alexa, c'est Amazon.
Et ça, c'est Amazon. Et donc ça, on parlait tout à l'heure du mobile. Je pense que ça remet en cause une partie de l'utilisation de l'écran du mobile, en tous les cas, lorsque vous êtes chez vous ou lorsque vous êtes au bureau.
parce que c'est d'une telle simplicité. Moi, je l'ai testé et je l'ai chez moi. C'est véritablement une nouvelle interface. Et c'est tellement simple et tellement naturel que c'est la ménagère augmentée, en fait. Et ça rend véritablement un service. C'est pas un gadget. Alors, je pense que ça va surtout avoir un impact sur tout ce qui est food et repeat.
Oui.
Je ne suis pas sûre qu'on achète sa lingerie en commandant à OK Google, je veux être livré dans une heure. Mais bon, sauf si j'ai vraiment des habitudes. Mais sinon, pour tout ce qui est tablette de beurre, fond de cuisine, etc., c'est une vraie révolution.
C'était le bouton Amazon, en fait.
Voilà, c'est le bouton Amazon qui devient encore plus fluide avec une interface encore plus simple. Et donc, pourquoi Amazon a racheté Whole Foods?
Oui.
Je pense que c'était effectivement pour avoir une assise terrain, mais aussi pour mettre la main sur la data. C'est-à-dire qu'ils ont racheté un historique client pour pouvoir effectivement anticiper, jouer l'historique et avoir un meilleur service.
Tout comme Galeries Lafayette qui a mis la main sur la Redoute aussi, on y reviendra dans un instant. Simplement, ça vous donne des idées, vous qui livrez donc à la Redoute aussi bien des vêtements, des meubles, enfin toutes sortes d'objets finalement.
Des vêtements, des meubles, c'est pas mal.
Oui, bah c'est ça, par exemple. Et voilà. Oui, 7 millions de visiteurs uniques chaque mois sur le site de la Redoute. Hein, 85% France. Du chiffre, en France bien sûr, du chiffre d'affaires c'est sur le web. Une histoire de serrure comme ça, est-ce que ça vous donne des idées?
Je sais pas, après ce qui est intéressant dans l'expérience d'Amazon aux États-Unis, c'est toujours le côté un peu disruptif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont capables de rentrer chez les gens, de livrer les choses. Après, il y a des problèmes de culture. On l'a rappelé, effectivement, rentrer chez les gens, ouvrir les frigidaires, c'est plutôt américain, un peu moins latin. On le fait moins en France. Maintenant, il faut regarder, il faut suivre, parce que toutes ces expériences clients vont être un enjeu fondamental pour demain. Je ne sais pas si dans l'univers, vous le disiez, dans l'univers de la lingerie, de prêt-à-porter, je ne suis pas sûr que ma femme ait très envie qu'on rentre dans sa commode où il y a sa lingerie, etc., pour y poser des dessous. Maintenant, à suivre, une chose est sûre, c'est que tout ce qui va se passer en termes d'innovation dans les mois et les années à venir sur les services, sur la data, sur la personnalisation, sur la manière finalement de satisfaire le client, va être un enjeu qui va être absolument fondamental dans les années à venir.
François Monboise, à la tête de la FEVAD.
Je crois que ça confirme les ambitions d'Amazon sur l'alimentaire, parce que le fait d'entrer chez les gens, c'est surtout important pour l'alimentaire. Vous pouvez pas laisser des yaourts devant la porte des gens. Et c'était un des gros irritants, je suis entièrement d'accord avec Isabelle, qui sont en train de lever en le testant. Ils le testent sur les abonnés Amazon. Comme vous l'avez dit, des gens qui ont donné tout cet argent à Amazon, ils ont confiance dans Amazon. Sinon, ils ne donneraient pas cet argent. Franchement, c'est très malin. Il faudra voir comment ça évolue. Mais c'est
sur
très
le
malin.
Food.
Sur le food, voilà, sur l'alimentaire.
Sur le repeat.
C'est un gros problème pour les GSA, hein, les grandes surfaces alimentaires. Ils ont maintenant un concurrent énorme qui arrive, parce que l'achat de Whole Foods, c'était aussi acheter des équipes. D'après ce que je lis aux États-Unis, c'est une chaîne de très haute gamme de produits bio, enfin des gens très compétents. Ils n'achètent pas que des magasins, ils achètent des équipes d'épiciers très compétents.
Oui, et de la data aussi.
Et de la data.
Bien sûr.
L'e-commerce qui passe dans le dur, hein, Amazon qui met la main sur Whole Foods, hein, on le disait, le Sensi de Marc Simoncini, je crois qu'il a ouvert des points de vente cette année également. Met.com, c'est un site de mobilier design aussi qui est apparemment ouvert à Paris. AMPM donc, eh bien avec...
Et la Redoute Intérieure.
La Redoute l'intérieur, je ne savais pas, qui ouvre des magasins, notamment 6e, 16e à Nantes, et puis dans des corners BHV et Galerie Lafayette. C'est nécessaire que eh bien, des sites de e-commerce ouvrent des magasins physiques, Isabelle Bordry?
Je pense qu'il y a une démultiplication des points de contact. Il faut, tout à l'heure on parlait de l'assistant personnel, il y a une notion de quand j'ai besoin de quelque chose, je dois pouvoir le trouver tout de suite. Et donc ça s'amplifie avec les jeunes générations, et quand on fait effectivement des enquêtes, on s'aperçoit que le fait que ça soit à disposition immédiatement, je l'achète, sinon je passe à autre chose. Et donc il y a un enjeu et un challenge pour les enseignes de démultiplier les points de contact, qu'ils soient physiques ou digitaux.
LDLC par exemple, hein, c'est Laurent de la Clergerie qui était venu nous voir lors d'un défi ETI récemment, c'est typiquement un acteur du net, hein. Il vend des produits de tech sur Internet. Il a doublé le nombre de ses magasins pour emporter le nombre total à 24. Son objectif, c'est d'en compter une centaine à l'horizon 2021. Et dans les points de vente, eh bien, il va proposer quoi ? Un atelier où on peut construire son PC sur mesure et où les vendeurs sont des experts. C'est ça qu'il faut faire, François Monboise ?
Ça dépend des produits qu'on vend, mais LDLC, je pense qu'on peut leur donner un grand coup de chapeau parce qu'ils vendent de l'informatique et de l'électronique face à Amazon, Fnac, Darty. une société profitable, une petite boîte française, donc vraiment chapeau. Et il est très pragmatique, c'est-à-dire qu'il a ouvert quelques boutiques, il a vu que ça se passait bien, un peu comme vous expliquiez le mariage entre Internet et les magasins. Il a acheté un réseau aussi il y a 2 ans, je crois, de boutiques, et il continue, il se développe progressivement.
Oui, allez-y, Laurent Milcœur, donc dirigeant d'Etam, le co-gérant d'Etam.
Je pense qu'en fait, en tout ça, il y a une équation économique derrière. Et la réalité, c'est que un acteur pur e-commerce, il a un coût d'acquisition de son client qui est relativement élevé, et plus il grossit, plus les clients en plus sont chers à aller chercher. On voit quand, je sais pas les comptes de la Redoute, mais quand la Redoute va aller à l'étranger, pénétrer à l'étranger, même si l'offre peut être adaptée, avant de se faire connaître, d'avoir de trafic, d'avoir les 7,5 millions de visiteurs uniques sur un autre pays, ça coûte extrêmement cher. Le magasin physique, il est générateur de notoriété. Finalement, le e-commerce a besoin de la notoriété. Plus vous avez de notoriété, moins l'acquisition est chère, et donc le commerce physique crée aussi notoriété et ce service et le lien. Alors je pense
c'est une façon de faire décoller les ventes aussi.
C'est des canaux de distribution différents. Finalement, il y a eu avant les centres commerciaux, on pensait qu'il y avait que le centre-ville. Ensuite, il y a eu les centres commerciaux. Ensuite, il y a eu la périphérie. Maintenant, il y a le digital. Et plein de marques sont sur tous les canaux avec des formats et des modèles un petit peu différents. Et je pense que c'est un canal de plus qui va prendre de plus en plus d'importance. Et je pense que l'enjeu, il est vraiment comment est-ce que je crée ma notoriété quel est mon coût d'acquisition client, que je paye un loyer physique ou un loyer d'acquisition quelque part. C'est toujours ce loyer sur le chiffre d'affaires. Ce qui change aussi fondamentalement les comptes des entreprises. Parce que quand vous ouvrez un magasin, finalement, vous avez un capex, vous avez un investissement physique, vous investissez 1 million d'euros pour ouvrir un magasin, pas de porte, fonds plus travaux. Quand vous trouvez sur le digital, finalement, votre magasin en plus, c'est un pur coût variable. C'est plus du capex. Et finalement, tout ce coût d'acquisition, c'est du coût récurrent que vous devez avoir ou le coût technologique pour générer du trafic et donc du chiffre d'affaires. Et c'est une charge quelque part dans votre compte d'exploitation. Et donc, ça change un peu les budgets, la façon dont les comptes des entreprises changent. Et on a été un des premiers acteur traditionnel, à avoir son chiffre d'affaires qui décolle sur Internet, parce qu'on a démarré un peu plus tôt, donc on a eu le temps de comprendre.
Vous vous rappelez, 2001.
Et le voilà. 2001. Et le jour où on a investi significativement en acquisition, en fait, on a notre chiffre d'affaires qui a décollé. Et je me rappelle d'amis et d'autres entreprises de retail comme dans la mode en France qui me disaient, mais t'es complètement fou, tu dépenses en coût marketing sur Internet plus que le média traditionnel. Je dis, mais en fait, c'est un loyer qu'on est en train de payer. Ah ouais. Finalement, si tu me dis, au lieu d'avoir 100 millions de loyers, moi, je vais essayer d'avoir 50 millions de loyers et faire plus de chiffre d'affaires, tu sais très bien que ça se produira pas significativement. Donc, en fait, c'est la même chose. Sauf que le loyer, plus vous êtes gros, à un moment donné, plus votre part de marché est grosse, plus les derniers loyers deviennent chers. Et je pense que tout d'un coup, on se retrouve avec des magasins, le pur player digital se retrouve avec des magasins et il réalise que le coût d'acquisition de ce magasin se rajoute à un coût d'acquisition qui est peut-être plus élevé, et on trouve une équation économique qui est relativement performante.
Similaire.
Quand Darty ferme un magasin, finalement, quand ils ont commencé à réorganiser leur parc, ils perdaient en performance e-commerce dans la zone de chalandise du magasin, parce que le magasin était aussi un showroom. En se disant au début, on va gagner en chiffre d'affaires puisque globalement, on va fermer un magasin, donc on va perdre 100, on va récupérer 20 sur le web. En fait, non.
C'est pas aussi automatique, il n'y a pas de vaste communicant. Oui, justement, tiens, l'omnicanal, c'est un peu l'objectif du mariage. Galerie Lafayette.
Ouais, c'est un des objectifs.
La Redoute, justement, objectif 5,5 milliards de ventes en 2020 contre 4,5 milliards aujourd'hui. Hein.
La Redoute plus galerie. Hein.
Bien entendu.
Pas la Redoute tout seul.
Ah non, j'aimerais bien, 150 mais... millions avec
l'année prochaine.
C'est compliqué. Voilà. Oui, non, l'omnicanal est un enjeu fort. C'est vrai que, on le disait, nous, on vend de la mode et on vend de la maison. Et en l'occurrence, les expériences qu'on a faites sur le retail physique, font qu'effectivement, quand vous avez un magasin MPM ou un magasin Redoute intérieur, vous montrez des produits qui sont quand même engageants en termes de dépenses. Acheter une robe sur Internet, c'est quand même pas la même chose que d'acheter un sofa. Un sofa sur Internet. Donc, le voir, c'est encore mieux. Quand vous dépensez 1000 euros pour un canapé, c'est quand même mieux. Donc, effectivement, cette expérience d'omnicanal, notamment dans l'univers de la maison, va être un atout important pour les mois à venir.
Charlotte Journeau-Bord, donc, avec nous également à la tête de Wishibam. Donc, plus de frontières entre les deux. Il faut faire les deux absolument.
En fait, oui. On se rend compte de plus en plus qu'il faut faire les deux et que toujours en mettant le client au centre de nos préoccupations. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec l'exemple qu'on donnait tout à l'heure sur les ordinateurs, c'est que finalement les vendeurs en magasin, on se rend compte qu'ils sont de plus en plus compétents. Et en fait, moi l'impression que j'ai, c'est que le magasin aujourd'hui, va devenir de plus en plus un showroom où on crée du lien, où vraiment on accompagne le client, où il y a vraiment un service, un vrai service.
Oui, des vendeurs experts face à des consommateurs de plus en plus experts aussi. Oui. Isabelle
absolument.
Et puis, informés.
Et informés, voilà, absolument. Entendu, et puis, un espace magasin qu'il faut réinventer dans la continuité de ce que l'on a dit tout à l'heure. Par exemple, là, il y a Decathlon aussi, Decathlon City, qui réinvente un nouveau concept. Donc, il y a moins de mètres carrés. Ils sont en centre-ville, dans des rues commerçantes, comme la rue du Commerce, par exemple, à Paris. Et ils y donnent des cours. Donc, possibilité d'avoir des cours de running, etc. Donc, toute l'idée là, pareil, c'est de développer un service, de développer une fidélité pour que la marque soit toujours au cœur des préoccupations du client.
François Monboise, à la tête de la FEVAD.
C'est malin ce que fait Decathlon, là, parce qu'ils cultivent leur image, ils enrichissent leur image d'experts du sport et ils donnent aux gens une autre raison de venir en magasin. Qu'acheter, c'est ça, c'est prendre un cours de running. Donc, c'est très malin.
Depuis que vous êtes marié avec les Galeries Lafayette, donc l'annonce a été faite fin août, hein, c'est ça, début septembre.
31 août, oui.
31 août, exactement. Quel projet concret
voilà, on a pas projet.
Mené
on est encore dans la phase juridique.
Deux mois maintenant.
Oui, on est encore dans la phase juridique. On n'a pas closé l'opération.
Ah, d'accord.
Donc pour l'instant, on a beaucoup d'envie. Les équipes sont très motivées de chaque côté, etc. Mais on a encore une phase juridique à passer. Mais une fois que la phase juridique sera passée, effectivement, on aura un peu moins d'inhibition pour avancer. Mais je crois que ce qui est intéressant, et il faut le dire avec beaucoup d'humilité, c'est que je le disais tout à l'heure, il y a 15 ans, le retail physique était mort, le e-commerce allait tout exploser. 15 ans après, on se dit quoi ce soir? On se dit ensemble que finalement, la combinaison des deux
elle
va
est possible,
faire l'expérience client de demain, etc. Ouais. Quel sera finalement le comportement des clients dans 15 ans? On n'en sait rien. Par contre, je suis assez d'accord avec ma voisine. Une chose
Charlotte
est sûre, c'est que... Charlotte, une chose est sûre, c'est que je crois que ce que nous a permis à minima le e-commerce, je dis bien à minima parce que ça a permis beaucoup d'autres choses, c'est de se recentrer sur le client et ses désirs. Et pas uniquement de se regarder le nombril en tant que marque.
On l'avait un peu oublié, c'est ça?
Ouais, je pense. Ouais, ouais, je pense qu'on l'avait un peu oublié.
Je pense que le développement du digital montre à quel point la marque et le produit est important, en fait. Ouais. C'est qu'à un moment donné, en fait, il faut servir toujours le mieux possible son client. Et je pense qu'on parle beaucoup tous d'organisation du magasin, de supply chain, de technologie, de data, etc. Mais in fine, on voit que les retailers qui résistent le mieux sont ceux qui offrent ou le meilleur service, c'est-à-dire ceux qui vendent toutes les marques, les marketplaces physiques ou digitales, parce qu'elles offrent un très bon service, Amazon. On était à San Francisco en début d'année avec mon comité de direction, et les retailers américains sont en panique, et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils disent Amazon, et donc on va se bagarrer contre Amazon, donc on va avoir l'offre la plus large possible et le meilleur service digital possible.
Oui, mais...
Impossible de se bagarrer contre Amazon sur ce critère-là. Par contre, si la marque est forte, et si le produit est unique, et c'est le cas de Decathlon, c'est le cas de La Redoute avec sa marque Pop, même s'ils vendent aussi d'autres marques, c'est le cas, je pense, d'Etam et Dundies. Alors du coup, on va exister longtemps à partir du moment où on prend en compte cette nouvelle donne avec ce nouveau canal de distribution. Mais ne jamais oublier ça.
Ouais, ouais.
Charlotte, Eric, Charlotte Journeau-Bord.
Nous c'est, en fait, quand on a lancé le site, on n'avait pas du tout d'argent. Ouais, Wishibam, on n'avait pas du tout d'argent pour investir en marketing. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'avais un peu de trafic grâce au SEO et que j'allais justement essayer de convertir les clients qui venaient chez moi. Et donc pour les convertir, on a développé cette technologie qui nous permettait d'accompagner le client et on a vraiment humanisé les gens de notre équipe. Et on s'est rendu compte que c'était ça qui avait super bien marché. Par exemple, un exemple un peu idiot, mais donc on a eu une plutôt forte croissance et donc au début on n'était pas du tout prêt, donc il y a eu plein de retards sur les livraisons et donc au lieu d'attendre 3 jours, et ben on attendait 10 jours pour être livré, ce qui est impossible aujourd'hui.
C'est
sauf
irritant.
Qu'en fait on a toujours une satisfaction client à 97%. Là on est à 100%, donc je serais contente, mais 97%, pourquoi? Parce que en fait on mettait les gens les photos et des gifs des gens de l'équipe qui couraient avec des colis, et en fait les gens, les clients, ils ont adoré ça.
Allez, le mot de la fin.
Non, moi je crois que
Eric Courtais,
La Redoute, marque, produit, service et inventer. Et inventer au service du client, je crois que c'est vraiment ce qui nous fera gagner demain, quoi.
Génial. Merci à tous. Merci Eric Courtais, donc le coprésident de La Redoute, hein, donc en route vers les bénéfices en 2018. Avant, il y aura le Black Friday dans moins d'un mois. Ça se prépare, hein, bien sûr.
Ah, il y a un moment fort de
consultation. Ah, ouais, bien sûr. Bon, on y reviendra, bien sûr. Charlotte Journeau-Bord, fondatrice de Wishibam, site marchand, mariage, bien du e-commerce et du conseil intelligent. Laurent Milchior avec nous également, donc co-gérant d'État. Voilà, magasin physique qui se réinvente, justement. François Monboise, président de la FEVAD, et puis Isabelle Bordry à la tête de Retency, qui conseille justement les magasins en dur sur le parcours client. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.